Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Comme à l'habitude, ici votre hôte, Hubert Côté. On est accompagné aujourd'hui de notre cher Louis Côté.
Allô, encore Louis. Une fois, merci.
Yes, merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler de fiscalité pour entreprise. Donc, on va parler entre autres des avantages inconvénients aussi d'être incorporé pour être propriétaire d'une entreprise. C'est un peu pour faire suite à la newsletter qu'on a créée, là, à 1 million de dollars libre d'impôts. Ces gens y ont droit. Donc, on va regarder en détail là, un petit peu les différentes stratégies qui existent pour être exonéré de certains impôts. Donc, évidemment, petit disclaimer avant, ni moi ni Louis sommes fiscalistes. Encore une fois, c'est des recherches qu'on a fait à travers différentes lectures. Donc, on vous invite à aller vous référer à un fiscaliste, quelqu'un qui a le titre pour savoir en détail ou mettre en application les choses. Encore là, le but de ce podcast-là, c'est juste de parler puis de peut-être donner comme une première aperçu de c'est quoi les avantages de la chose. Puis après ça, pour tout ce qui est détails, chiffres exacts, on vous invite à vous référer à des professionnels qui ont les licences pour, évidemment, vous guider à travers la fiscalité.
Exactement, parce qu'en fiscalité, chaque situation est très unique, donc très particulière. Les chiffres sont différents pour tout le monde. Chaque personne a des objectifs différents, donc c'est pour ça que c'est très important de consulter un spécialiste, puisqu'on notre objectif aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans les détails, mais vraiment d'aborder les grandes lignes. Donc, pour commencer, j'aimerais ça poser une question, Hubert. Selon toi, c'est quoi la distinction entre une entreprise et une compagnie?
Selon moi, ça, je pense que c'est un synonyme, right? C'est entreprise et compagnie, c'est pas la même chose.
C'est plus ou moins un synonyme, mais en fait, c'est que une entreprise, au sens juridique, là, au sens fiscal, une entreprise, c'est vraiment toute forme d'activité qui permet de générer un revenu. Okay. Puis après ça, cette entreprise-là peut être en plusieurs formes juridiques. Fait que ça peut être soit un travailleur autonome, fait que non incorporé, tu rajoutes ça dans ta déclaration de revenus, puis c'est la forme la plus simple. Puis sinon, la forme la plus populaire, c'est la société par action. Puis le synonyme de ça, c'est une compagnie. Donc souvent, les gens, ils utilisent les termes de façon interchangeable. Ils disent « mon entreprise, ma compagnie ». Puis comme toi, tu l'as dit, on pense que c'est des synonymes, alors qu'en réalité, c'est pas nécessairement des synonymes. La compagnie va être plus pour déterminer est-ce que c'est une société par action, c'est la forme juridique dans laquelle l'entreprise est détenue, l'entreprise est opérée.
OK, pour moi, j'avais aucune idée. C'est bon à savoir, pour moi, je savais aucunement.
Okay. Donc, il y a plusieurs subtilités comme ça. Puis, une INC, une société par action, comme j'ai dit, c'est une forme juridique. Donc, cette forme juridique-là permet d'opérer son entreprise. Il y a aussi d'autres formes juridiques comme la société en nom collectif qui permet de s'associer sans nécessairement s'incorporer. Il y a aussi des coops, puis toutes sortes de formes juridiques. Mm-hmm. La plus intéressante, c'est souvent la société par action.
Ouais. Puis j'imagine que si on va aborder le sujet, moi, ce qui m'intéresse surtout, je pense, puis les gens à la maison aussi, c'était souvent, on entend des pratiques courantes dire bon, les entrepreneurs ou les propriétaires d'entreprises ou de compagnie, on pas d'impôts ou des choses comme ça. T'sais, évidemment, c'est faux, mais il y a le contexte de l'exonération du gain en capital. À la vente d'une entreprise, le premier million de dollars n'est pas imposable.
En effet.
Je ne sais pas si on devance un peu l'agenda du podcast, mais comme ça, mettons, je trouve ça intéressant. C'est quoi un peu la mécanique derrière ça? Puis pourquoi est-ce que les entrepreneurs au Québec ou les propriétaires d'entreprises n'ont pas à payer d'impôts sur le premier million de dollars de la vente de leur compagnie?
Très bonne question. Il faut comprendre qu'au Canada, au Québec, le système fiscal, puis même partout au travers du monde, le système fiscal est fait pour donner des carottes, des incitatifs aux personnes d'adopter certains comportements. Dans le cas du système fiscal canadien, il y a beaucoup d'incitatifs à avoir une entreprise, être entrepreneur, puis créer de l'emploi. Donc, beaucoup d'incitatifs pour avoir une entreprise, pour être entrepreneur. Puis un de ceux-là, c'est la déduction pour gain en capital. Il y a plusieurs, on n'entrera pas dans les détails, là, mais il y a quand même plusieurs conditions à respecter. Pour avoir 1 million de dollars libre d'impôts. Donc, en vendant les actions d'une société, donc les actions doivent être une petite entreprise, donc on appelle ça des actions admissibles de petite entreprise. En gros, les deux critères, je pense que c'est important pour les gens qui sont en mode vente, c'est qu'on doit, le propriétaire doit détenir la société pour au moins 2 ans, puis il doit, la société doit être purifiée, qu'on appelle. Donc, en dedans de 2 ans, 50% des actifs doivent être utilisés pour l'exploitation de l'entreprise. Puis au moment de la vente, on a un 90% qui doit être utilisé pour l'entreprise. Il y a des techniques de purification qui peuvent être abordées. Le plus contraignant, je dirais, c'est le 50% 2 ans avant, parce que c'est à tout moment. Donc, ça peut quand même être difficile de garder ça. Puis des fois, les liquidités s'accumulent dans la société. Puis on pense pas nécessairement qu'on veut vendre dans 2 ans. Donc, on peut se ramasser dans des situations où qu'on perd cette déduction-là. Donc, ça peut être problématique. Une autre chose qui peut être intéressante à faire pour le vendeur, là, à penser en avance, c'est que les actions doivent être détenues personnellement par la personne physique. Là. Donc, toi, Hubert Côté, dois détenir les actions pour bénéficier de ça et non, par exemple, Hubert Côté Gestion Inc., qui serait une société de gestion qui détient ton entreprise. À ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Il y a d'autres solutions là, pour passer au travers de ça, comme par exemple l'utilisation de fiducie, mais là, ça peut devenir plus complexe, entraîner des coûts supplémentaires. Mais en règle générale, là, si une personne détient son entreprise, qu'il l'utilise pour vraiment là, que c'est pas juste une société de placement, là, puis qu'il l'utilise pour générer des revenus d'entreprise admissibles, ben, à ce moment-là, il y a 1 million qui peut être 1 million de gains en capital qui peut être exonéré d'impôts. Puis ça peut représenter en fait une économie à 53,31% de 271 000 grosso modo, parce qu'on sait que le gain en capital, premièrement, il est imposable à 50%.
Ouais.
Puis après ça, là, ce 50%-là, il va être imposé donc au taux d'impôt. Habituellement, c'est sûr que quand on vend une entreprise dans l'année, souvent on touche les gros taux d'imposition là, parce qu'on a un gros
revenu.
Ouais. Exactement.
Fait que c'est, OK, c'est une économie d'échelle d'à peu près 270 000, tu as dit?
Exact, ou... exact.
Fait qu'on sauve 270 000 piastres d'impôt.
Exactement.
Sur une vente de 1 million. Là.
Exactement. Okay. Puis si on va être un petit peu plus technique, là, il y a l'impôt minimum de remplacement qui rentre en jeu. Donc ça, c'est un autre calcul d'impôt en parallèle qui fait en sorte que les gens qui utilisent ces avantages fiscaux-là doivent payer cet impôt-là sur 7 ans, grosso modo.
Mm-hmm. C'est quand même fou, pareil, tu sais, c'est des paradis fiscaux légaux, là, dans un sens. T'sais.
Exact, exact.
Y en a peu qui existent. Un, il y a le CELI, dans le sens que c'est la beauté de la chose, tous les gains que tu vas générer dans ton CELI libre d'impôt. L'autre que je connais, du moins, c'est ça, c'est l'exonération du gain en capital pour entrepreneurs. Peut-être qu'il y en existe d'autres. Je veux toujours être dans la légalité. Fait que c'est les deux seuls que j'utilise et que je trouve intéressants, vraiment. 1 million de dollars libre d'impôt, c'est game changer. Là, c'est,
exact, c'est exact. Puis, on parlait aussi de paradis fiscaux. À un certain point, là, les sociétés par action peuvent être considérées également comme des paradis fiscaux, dans le sens qu'en faisant mes recherches, ça m'a quand même surpris, mais de me rendre compte que le Canada est une des places où le taux d'impôt sur les sociétés est le plus faible.
Ah ouais.
C'est même plus faible qu'aux États-Unis.
C'est sérieux?
Ouais. Puis ça découle un peu là, du système fiscal qui est basé sur un principe qu'on appelle l'intégration. Donc, en fait, là, pour 1 $ de revenu personnel, peu importe de quelle source, l'idée c'est d'avoir à peu près le même niveau d'imposition. À ce moment-là, il y a beaucoup, beaucoup moins d'imposition dans la société. Puis quand l'argent est versé au propriétaire, c'est là qu'il y a beaucoup d'imposition là, qui se passe.
Ouais. Ben c'est ça, tu sais, au début, quand tu es propriétaire d'une entreprise, tu génères un revenu à partir de l'entreprise, bon. Tu payes un pourcentage d'impôt entre 10 et 20%, là, tout dépendant de la chose. C'est-tu la moyenne approximative?
Ouais, ben en fait, on peut même rentrer un peu plus dans les détails. Là. Il y a 3 taux d'imposition. Ouais.
Juste avant qu'on rentre, c'est ça, excuse, je te coupe. Tu sais, dans le fond, c'est quoi les réels avantages d'être propriétaire d'une entreprise si c'est bien beau la vente? Mais tu sais, mettons pour monsieur, madame, tout le monde qui souhaite avoir une entreprise. Tu sais, d'un point de vue fiscal, c'est quoi les avantages? T'sais?
Très bonne question. Donc, d'être, ben, comme on a dit au début, entreprise, compagnie, il y a une distinction. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui a une entreprise puis qui a besoin de tous ces revenus-là pour subvenir à ses besoins, à ce moment-là, ça ne vaut pas vraiment la peine de s'incorporer, à part pour la protection juridique. Donc, le fait d'avoir une société distincte de son patrimoine, ça peut être quand même intéressant. Mais sinon, en règle générale, là, l'avantage financier, c'est lorsqu'on est capable de laisser de l'argent dans l'entreprise, c'est là que ça vaut la peine parce que cet argent-là va être imposé à un taux qui est très inférieur au taux personnel. Puis après ça, elle va pouvoir être réinvestie dans des projets dans l'entreprise ou même en bourse ou dans n'importe quel projet en immobilier. Mm-hmm. On parlait des taux d'imposition. Il y a 3 taux d'imposition au Québec. Il y a le petit taux, le plus petit, qui est à 12,2%. Après ça, on a lui à 20,5%, puis on a 26,5%. En gros, les critères là, pour avoir le 12,2, c'est qu'il faut... les critères là, pour avoir la déduction accordée aux petites entreprises, c'est de générer moins de 500 000 de profit. Donc, le premier 500 000 est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Sauf qu'il y a un bémol, c'est qu'au Québec... on a décidé d'ajouter une règle qui est la règle des 5500 heures. Donc, pour avoir accès à cette déduction-là, il faut qu'il y ait 5500 heures travaillées dans l'entreprise. Donc, ça inclut le propriétaire, tous les employés. Puis à ce moment-là, on peut avoir cette déduction-là. Sinon, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un taux médian là, à 20,5, là, qui est le taux du Québec lorsqu'on a moins de 5500 heures.
Et ça avait été voté par... C'est pas Legault, hein? C'était.
Je pense.
Mais c'est à cause
c'est
des médecins,
vieux.
Hein? Je pense que c'est à cause pour pas que les médecins puissent avoir accès à ça, dans le fond.
C'est exact. Là. C'est pas juste les médecins, là, mais tout ce qui est professionnel incorporé. L'idée, c'était de limiter l'avantage fiscal pour ces personnes-là. Là, qui
sinon, ça arrête. Ouais, fait que tu veux t'assurer. Parce que les professionnels, normalement, ils n'ont pas d'employés. Fait qu'ils font pas 5500 dans une année. Fait qu'ils veulent juste s'assurer que c'est une vraie PME, dans le fond.
C'est ça. Dans le fond, l'idée, c'est de juste donner cet avantage-là à ceux qui créent des emplois, finalement.
OK, ouais.
Puis...
Fait que pour ceux-là c'est 12,5% qui payent sur... Est-ce que c'est bénéfice... Le 500 000 de bénéfice, excuse-moi, là, ouais. C'est une technicalité, c'est bénéfice net ou c'est le BAYA?
C'est bénéfice net. Okay. Fait que dans le fond, tu sais, quand on parle de BAYA et tout ça, c'est plus comptable. Puis là, ça serait le bénéfice net fiscal.
Ce qui reste
donc,
à la fin, il faut que tu fasses moins que 500 000.
Okay. Ce qui reste à la fin, puis aussi, là, selon ce qui est déductible vraiment fiscalement,
ouais.
Parce qu'il y a des dépenses qui peuvent être non, par exemple, je pense au repas, tu as juste 50% qui est déductible, tandis qu'en termes comptables, là, on pourrait le mettre à 100% déductible.
Okay.
Puis ça, c'est vraiment intéressant là, parce que payer 12,2% sur ses bénéfices, exemple, on fait 100 000, ben on paye juste 12 200 d'impôts, puis tout le reste peut être investi. Fait que ça permet de faire un report d'impôts qui est vraiment intéressant, puis de réinvestir dans des projets, puis même pouvoir acquérir des nouvelles entreprises, puis ça bénéficie vraiment à la croissance de l'entreprise.
Mmh. Mais si, de ce que je comprends, si tu le retires au personnel, ben ça revient à peu près au même que gagner un salaire. T'sais,
exactement.
Là, tu es imposé à ton taux d'imposition au personnel.
Exactement. Fait que c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment de trouver, de s'incorporer en fait lorsqu'on est capable d'en laisser dans la société parce qu'il n'y a pas d'avantage à avoir une société si on retire tout l'argent.
Ouais.
En fait, là, si on se verse tout un salaire, c'est exactement la même chose que si on l'avait au personnel là, puis qu'on était non incorporé.
Ouais, exact. Puis tu sais, on peut pas s'incorporer juste pour s'incorporer, là, juste pour... s'assurer que tout le monde comprenne. Il faut actually avoir une entreprise. Là. On peut pas.
Exact.
Même si on est travailleur autonome, ben, c'est comme un autre univers. Les travailleurs autonomes puis s'incorporer, il peut avoir des avantages aussi. Je m'y connais pas énormément là-dedans. Est-ce que tu as un peu de data par rapport à ça ou plus ou moins?
Au niveau des travailleurs autonomes incorporés, ouais. Oui, ça se fait, mais c'est comme on disait, là,
ça
on
serait
au taux de 20,5. Ouais. Il peut avoir quand même un avantage au niveau du report d'impôts. Par contre, l'avantage est quand même moins significatif que pour une entreprise qui a le 5500 heures.
Ouais.
Mais pour quelqu'un qui est travailleur autonome, puis qu'il sait qu'il n'a pas nécessairement besoin de tout l'argent, ben il va pouvoir s'incorporer, puis ça serait quand même avantageux.
Mm-hmm. Mais c'est de ma compréhension jusqu'à maintenant, puis I might be wrong, je suis pas un fiscaliste, mais idéalement, c'est ça, c'est d'avoir son entreprise avec ben, de générer de l'emploi pour minimiser, avoir la déduction. Payer 12% et quelques d'impôts avec les bénéfices générés, les profits, investir acquérir des entreprises, d'autres entreprises, faire du développement.
Exact.
Puis, ultimement, après ça, ben, un jour, vendre.
Exact.
Une partie où, tu sais, puis continuer par faire de la croissance par acquisition puis avoir une société, là, tu sais.
Exactement, parce que tant ou sous longtemps que les profits restent dans l'entreprise, il n'y a pas la deuxième couche d'imposition, puis c'est vraiment la deuxième couche d'imposition au personnel qui est la plus pénalisante. Donc ça, ça vient vraiment créer un vecteur de croissance pour les entrepreneurs qui peuvent tout réinvestir leurs bénéfices quasiment
tout. Mais en même temps, je trouve que c'est quand même bien pensé comme machine, parce que tu sais, le but, mettons, de la croissance de la société, c'est de générer de l'emploi. Fait que l'entrepreneur n'a pas intérêt à sortir le cash de la business. Il a juste à la faire grossir, créer plus d'emplois pour un payout futur. Mais après ça, ce qui est avantageux, c'est que tu la vends, mais tu sais, tu la transfères à quelqu'un. Puis ce transfert-là, ben, l'autre personne va pouvoir un jour vendre la compagnie aussi.
Exact.
Fait que ça crée comme une roue sans fin de génération d'emplois. C'est exact. Comme une optimisation fiscale dans le système qui a été mis en place pour justement. C'est quand même une bonne mécanique à bien y penser. Là.
Ben vraiment, parce que ça l'aide à l'économie à croître, là, plus ni moins, parce qu'il y a plus d'argent qui est disponible pour créer des emplois, plus d'argent qui est disponible pour créer de la richesse au sein de l'économie.
Ouais, donc, c'est quand même fou quand tu y penses, tu sais, le gouvernement, il laisse un peu des breadcrumbs. Là, tu sais, des fois, les gens, ils demandent, tu sais, comment y arriver ou comment.
Exact.
Avoir un succès financier ou réussir entre guillemets financièrement. Il y a plein de façons d'y arriver, l'épargne et tout, mais si tu regardes, mettons, le playbook fiscal, si tu veux optimiser ta fiscalité, mais clairement, tout pointe vers OK, ben, sois propriétaire d'une entreprise, ouvre-toi un compte un CDC, il va y avoir des CDC investis à partir de cette inc-là ou whatever. J'ai l'impression qu'il y a comme des hints dans la forêt. Là,
exact. Puis si on regarde, là, on a parlé du côté qui est comme plus la carotte, donc on veut récompenser les entrepreneurs. Puis d'un autre côté, il y a plus le bâton, c'est tout ce qui est passif. Donc ça, c'est le revenu passif qui est à l'intérieur de l'entreprise. Ça inclut tout ce qui est des actions, évidemment. Puis ça, c'est débattable, là, mais l'immobilier, c'est considéré comme du revenu passif également. Ça, il va être imposé temporairement à 50,17%. Donc c'est pour dire aux entrepreneurs, ni plus ni moins, investissez dans votre business, investissez pas dans des actions, parce qu'on veut que l'argent soit vraiment réinvesti dans l'économie, créer des emplois, comme on disait plus tôt. C'est sûr que cet impôt-là est quand même pénalisant. Par contre, là, cet impôt-là est remboursable au versement d'un dividende. Donc, c'est un impôt qui est temporaire pour un peu inciter les gens à utiliser leur argent finalement dans l'économie, puis à ne pas la placer, l'investir. L'immobilier, ça peut être très pénalisant. Puis comme je disais, c'est débattable, là, parce que l'immobilier, c'est pas nécessairement si passif que ça.
Non.
Puis, c'est des revenus qui sont catégorisés comme étant des revenus passifs. Donc, c'est très pénalisant d'être à 50,17 dans une société.
Mm-hmm. Non, c'est fou, pareil. Puis, juste pour bien comprendre, c'est ça, exemple qui est... Je fais 1 million de dollars de profit. C'était 1 million de dollars-là de profit dans mon entreprise. J'achète des actions de Amazon, Tesla, Facebook, McDo. Je fais 20 000 piastres de gains dans mon année sur ces investissements-là. Ce 20 000 $-là de gains est imposé à... Même si c'est du gain en capital, c'est imposé à la moitié du... Fait que 10 000 $ est imposé à 50%.
Exact, exact. Okay. C'est très bien de mentionner ça. Le gain en capital, pour garder le principe d'intégration qu'on a parlé plus tôt, il y a juste la moitié qui est imposable. Donc, la moitié, fait que si on a fait 20 000 $ de gain en capital... on a une moitié qui est imposable à 50,17, comme on vient de le dire. Puis l'autre moitié va créer un compte de dividendes en capital. Puis ça, c'est des dividendes qui peuvent être versés aux propriétaires de la société sans impôt. Donc, très, très avantageux de générer du gain en capital dans sa société. La moitié peut être reversée. Tantôt, on parlait aussi que les actionnaires, c'est lorsqu'ils sortent l'argent de la société que ça coûte de l'argent. Mm. Ça coûte beaucoup plus en impôts. Donc là, à ce moment-là, le CDC permet de sortir la moitié du gain en capital tax-free.
Okay.
Plutôt intéressant.
Ouais, c'est quand même fou en perspective. Non, c'est fascinant. C'est quoi les désavantages?
Les désavantages, le plus gros désavantage, c'est vraiment les coûts que ça occasionne là, d'être incorporé. Donc, on parle de coûts de mise en place.
Mm-hmm.
Faut avoir un contrat qui est bien fait. Puis ensuite, il y a des coûts récurrents. Donc, à chaque année, il faut qu'il y ait les états financiers qui soient faits par un comptable. Il faut que les, les états financiers, premièrement comptables, puis également, il y a une déclaration à faire au niveau fiscal, donc on appelle une T2, comme la T1 pour les particuliers, T2 pour les sociétés. Donc, à chaque année, il faut faire une déclaration fiscale. Donc, il y a plus de lourdeur administrative. Ouais. Mais sinon, en termes d'inconvénients, il n'y en a pas vraiment d'autres. Puis même qu'il y a un mythe persistant, là, c'est au niveau de la déductibilité des dépenses. D'être incorporé, en fait, ça ne change absolument rien à la déductibilité des dépenses. On peut déduire les mêmes choses en ayant une entreprise au personnel versus en ayant une entreprise incorporée.
En tant que travailleur autonome versus...
Exact. Ouais. Donc, en tant que travailleur autonome, en tant que société, souvent, les gens, ils se disent « OK, ces personnes-là peuvent déduire plus de dépenses, mais il n'y a pas de passe-droit de « on peut déduire plus de dépenses personnelles ». Il y a le fameux « char plaqué F », là, entre guillemets, que c'est pas non plus un avantage là, parce que c'est très, très encadré, puis ça devient un avantage imposable, en fait, pour le propriétaire. L'actionnaire, s'il l'utilise à titre personnel. Donc, c'est très encadré. Il n'y a pas de passe-droit à ce niveau-là. Puis, comme dans tous les cas, il faut avoir des pièces justificatives pour ses dépenses. Puis, on n'est jamais à l'abri d'une vérification fiscale. Donc, il faut garder ces pièces justificatives-là, puis être en mesure de démontrer que chaque dépense est vraiment pour l'utilité de l'entreprise et non pour des dépenses personnelles.
Non, c'est ça. En gros, si tu optimises pour la croissance de ton entreprise puis augmenter le nombre d'employés, en général, tu peux pas vraiment go wrong.
Exact.
Dans tes dépenses. Là. Bottom line, évidemment, toujours se référer à son comptable ou son fiscaliste pour valider, mais c'est un peu pourquoi les incitatifs existent. Est-ce que ces dépenses-là bénéficient à la croissance de l'entreprise? Est-ce que ça va générer de l'emploi? Oui ou non? Souvent, c'est comme une règle du pouce qui fait du sens. Là.
Exact. Il y a une longue, longue liste de dépenses déductibles, dépenses non déductibles, traitements spéciaux selon le type de dépenses. Mais en règle générale, on peut se dire que si c'est pour l'utilité de l'entreprise puis si c'est pour générer du revenu, la dépense va être admissible. Donc, ça, c'est vraiment la règle générale. Là. Si cette dépense-là a été utilisée pour générer du revenu, c'est à ce moment-là que ça devient admissible. Mais encore là, comme on disait, là, ça vaut la peine vraiment de consulter un comptable fiscaliste avant de faire n'importe quoi à ce niveau-là parce que ça peut faire mal.
Non, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à savoir par rapport à la fiscalité et puis le fait d'être incorporé?
C'est sûr qu'on a effleuré vite fait. Il y a énormément d'éléments par rapport à ça. Il y a des cours qui se donnent. Comme Réginald l'avait dit là, dans son podcast, l'UQTR, a des livres disponibles donc sur la fiscalité personnelle, la fiscalité des sociétés. Donc, si vous voulez en savoir plus, ça peut être des très, très bonnes ressources. Mais je pense que l'idée pour un entrepreneur qui ne veut pas nécessairement être fiscaliste, c'est de connaître les règles grosso modo. Donc, on sait comment se débrouiller dans ces règles-là. On sait c'est quoi qui fait du sens, c'est quoi qui ne fait pas de sens. Puis après ça, on est capable de bien communiquer avec son professionnel puis aussi de comprendre qu'est-ce qu'il veut nous communiquer. Donc, souvent... les entrepreneurs ont tendance, quand ils parlent à leur comptable ou à leur fiscaliste, de pas trop comprendre puis pas trop le laisser paraître non plus, pas poser de questions parce que peut-être que ça va coûter cher s'ils posent trop de questions. Donc, arriver bien préparé à ce type de rencontre-là, ben, ça peut permettre de bien comprendre son setup fiscal, là, ni plus ni moins. Puis, à partir de là, de prendre les meilleures décisions pour la croissance de son entreprise.
Non, c'est sûr qu'un fiscaliste... ça coûte plusieurs centaines de dollars de l'heure. Là.
Exact.
Fait que faut poser les bonnes questions, mais c'est un peu ça aussi, je trouve, la beauté de la fiscalité. T'sais. Si tu es en mesure de comprendre les règles du pouce, comme tu l'as dit, puis vraiment te laisser guider par ça, puis après ça, venir optimiser avec des professionnels, ben c'est vraiment l'optimal. Puis surtout dans l'exonération du gain en capital pour de la vente d'entreprise. T'sais, nous, on en vend des compagnies là, pour des personnes en ce moment, puis il y en a qui viennent nous voir, ils veulent vendre leur compagnie. Nous, ça va nous faire plaisir de le faire, mais ils n'ont pas réglé leurs papiers, tu sais, dans le sens qu'ils n'ont fait aucune purification, les états financiers n'ont pas été audités. C'est très difficile de venir vendre au meilleur prix. Fait que de travailler en amont et de savoir que, OK, ben, si tu veux vendre ton entreprise un jour, quand tu deviens propriétaire day one, ben, mets-le dans tes objectifs. Puis dis-le à ton comptable ou à ton fiscaliste que ton objectif, c'est de vendre dans 2, 3, 4, 5 ans. Comme ça, jour 1, les états financiers vont être bien faits. il va te dire un peu les limitations puis ce que tu dois faire comme playbook pour qu'après ça, tu aies $1 million libre d'impôt à la fin, tu sais, puis tu ne te ramasses pas avec de mauvaises surprises.
Exact. C'est vraiment, vraiment un bon point que tu apportes là parce que la plupart des gens ne le voient pas arriver puis le prévoient pas.
C'est ça.
Mais il y a des choses qu'il faut faire en amont. On peut pas retourner dans le passé. Il y a des choses qu'il faut qu'il soit fait. Puis tu sais, on parle du 1 million. C'est beau, 1 million, mais ça, c'est pour une personne. Puis il y a des stratégies fiscales, par exemple, avec des fiducies qui permettent de multiplier cette déduction pour gain en capital-là avec les membres de sa famille. Donc, si on sait qu'il va y avoir une croissance de l'entreprise dans les prochaines années, mais c'est important de prévoir ça. Puis après ça, on peut, exemple, on a une famille qui a 2-3 enfants, ben 2-3 millions de plus, il y a la conjointe qui peut avoir aussi l'exonération pour gain en capital. Puis on peut la multiplier sans problème, mais il faut vraiment tout planifier ça en avance, puis il faut vraiment bien s'y prendre d'avance. C'est sûr qu'il y a des frais associés à ça, puis on paye les frais avant d'avoir les bénéfices, mais comme tu as dit, là, de le prévoir, c'est toujours gagnant.
Mm-hmm. Bon, là, l'histoire, faites vos devoirs, allez réécouter l'épisode de Reggie sur notre podcast, là, un des très bons... fiscaliste, professeur en fiscalité exact. Aussi. Il est venu là à quelques reprises déjà sur le podcast. Il y a quelques épisodes déjà. Donc, on va mettre des ressources aussi là, en description vers différents livres ou justement vers les épisodes qu'on mentionne à l'instant pour celles et ceux qui nous suivent sur YouTube. Donc, merci beaucoup, Louis. C'était super le fun de t'avoir encore une fois. Puis, tout le monde à la maison, on vous remercie énormément de nous écouter. Puis, on se dit à la semaine prochaine.